Financia Live, l'émission qui secoue les investissements. Une émission proposée par Financia Business School, présentée par Alfonso Lopez de Castro et Fabrice Coustet sur Radio Patrimoine.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Financia Live. Je suis en compagnie de mon acolyte, mon compère Alfonso Lopez de Castro. Bonjour Alfonso.
Bonjour.
Directeur de Financia Business School, également autre titre.
Directeur du corporate à la financière du ZES.
Voilà. Et c'est peut-être en cette qualité que voilà, on a un invité exceptionnel. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'on va parler du marché, on va parler des actions, on va parler des mid-cap, hein, les moyennes valeurs. Présentez-nous l'invité du jour.
Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir François Digard. Donc, effectivement, on s'est rencontré dans le cadre plutôt de la financière du ZES, hein, voilà. Puisque on traite des actions et c'est son domaine un petit peu de prédilection. J'ai voulu que ce soit notre invité parce que ce qui est assez rare dans ce secteur, il est entrepreneur, parce qu'il a fondé son entreprise, qui s'appelle donc Theia Recherche, et il va nous en parler. Mais on revient à ce vieux métier d'analyste financier, qui a beaucoup évolué, mais qui est très important pour le marché. Et je pense qu'il va pouvoir nous expliquer pourquoi il s'est lancé, et cette volonté de devenir entrepreneur, et peut-être de créer quelque chose un peu différent.
François Digard, bonjour.
Bonjour Alfonso.
Donc merci plus de 25 ans d'analyse financière, en tout cas sur les marchés, passionné par les actions. Vous êtes tombé dedans.
Je suis tombé dedans par un dernier stage, un ultime stage lors de mes études qui m'a fait découvrir l'univers de l'analyse financière. Et effectivement, j'ai commencé sur les valeurs petites et moyennes avant d'avoir un parcours plus sectoriel et d'avoir ensuite des responsabilités managériales. Et en fait, j'ai réuni à la fois mon goût pour l'analyse financière avec l'entrepreneuriat que j'avais un peu expérimenté à travers les responsabilités de management, en créant Theia Recherche qui veut être le premier pure player de la recherche sponsorisée.
Alors on va y arriver dans un instant. Juste avant, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent dans Financia Live, bien évidemment, vous ne saviez pas du tout ce que vous vouliez faire.
Non, j'avais réussi à faire d'assez longues études. Enfin, j'avais fait d'abord une maîtrise de droit, ensuite l'EM Lyon. Et sans arriver avant vraiment l'ultime stage, celui que j'ai fait pendant l'été avant de partir au service militaire, ce qui dit à quel point je suis vieux. Et pendant ce stage, c'était donc dans une société de bourse qui s'appelle Courcouble-Bouvet, où j'ai découvert la pratique de l'analyse financière. J'avais fait à l'époque une étude sur Adecco, qui venait de fusionner, et qui sur le travail temporaire. Et j'avais adoré ce métier qui permet à la fois de comprendre une industrie, de comprendre une entreprise en particulier, d'essayer d'identifier les forces et les faiblesses, mais aussi tout son environnement, et puis surtout d'essayer de prévoir l'avenir. Alors c'est un peu prétentieux, mais en tout cas, d'anticiper sur les flux futurs pour essayer de comparer le prix actuel avec la valeur potentielle d'une entreprise. Et ça a vraiment été une révélation pour moi. Ça mettait en fait ensemble beaucoup de ce que j'avais pu apprendre à travers mes études, donc du droit au départ, du management. C'est un métier assez généraliste, hein, le métier d'analyste financier.
Mais c'est vrai.
Puisqu'il faut à la fois comprendre une industrie, mais aussi s'interroger sur les ressources humaines d'une entreprise, sur ses dirigeants. Alors c'est encore plus vrai maintenant quand on intègre les critères ESG. Et c'est l'une des particularités de Theia Recherche. On essaie d'associer l'extra-financier avec le financier. Et donc on va essayer vraiment d'anticiper sur toutes les méga-tendances dans lesquelles vont se porter une entreprise. Tout ça devant aboutir à la fin à une valeur. Mais c'est seulement à la fin, finalement. Il faut avoir commencer par essayer de comprendre tout l'écosystème de l'entreprise.
Ouais, et pourtant, la question se pose sur ces moyennes valeurs. On sait que les stars du CAC 40, même du SBF 120, sont assez... on en parle, il y a de la littérature, ou du moins les journaux s'y intéressent, les sites internet. Mais c'est vrai, on peine un peu à avoir des infos sur les petites et moyennes valeurs. Elles sont un peu délaissées. Alfonso, expliquez-nous pourquoi en fait, on ne les suit pas davantage, ces valeurs.
Oui, faut voir, il y a un changement historique. À l'époque, il y avait énormément d'analyses chez les brokers, par exemple, hein, et qui pouvaient suivre des valeurs et qui pouvaient aussi se rémunérer sur le courtage. Bon, tout ça a disparu. L'informatique, la robotique a un peu changé, réduit des frais. Et ça a impacté, en fait, je pense, finalement, sur l'analyse. Après, les grands groupes se sont concentrés aussi sur des grands groupes, hein, et on essaie de réduire, maîtriser les charges. Et c'est vrai qu'il y a un pan du marché qui n'est pas suivi aujourd'hui, et c'est un peu dommage parce que la volonté d'Euronext, on a des belles pépites en small cap, des belles ETI françaises, entre autres. Et même, on a un marché français très attractif, en fait. Hein. On a beaucoup de sociétés étrangères qui viennent aussi, aussi ce côté. Moi, j'avais une question pour soi, et peut-être un peu pour éclairer nos téléspectateurs. Donc, la recherche, ça, on voit à peu près ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce que c'est la recherche sponsorisée ? Parce que là, on parle vraiment de recherche. Mmh. En fait, c'est clairement affiché. En quoi elle se distingue de la recherche, je dirais, traditionnelle qu'on a pu connaître. Et puis, quand vous êtes lancé maintenant, il y a un an, quel développement vous imaginez pour les perspectives pour cette recherche sponsorisée demain ?
Alors, ce qui est particulier dans la recherche sponsorisée, vous l'avez dit, c'est qu'elle est financée par les émetteurs. C'est-à-dire que c'est un peu particulier puisqu'on doit donner un avis alors qu'on est payé par la société sur laquelle on donne son avis. C'est un petit peu comme le marché du crédit, finalement, où l'ensemble des agences de notation sont payées par les émetteurs pour les noter. La différence, c'est que ce que vous appelez la recherche traditionnelle, c'est une recherche qui a été construite, il faut refaire un peu d'histoire, hein, qui s'est construite comme un coproduit des activités de brokerage, d'intermédiation, où au fil des années, les banques, les sociétés de bourse ont développé une recherche pour donner un service supplémentaire à leurs clients. Et ce service était payé par le courtage. Au fil des années, et au cours des 25 dernières années, le courtage s'est un peu effondré en taux, et du coup, il n'y avait plus assez d'argent pour financer la recherche. Et sauf sur les plus grosses valeurs qui continuent à générer suffisamment de courtage pour justifier pour les banques de payer de la recherche. Et donc, le segment des small et mid, c'est vraiment atrophié.
Et le régulateur a demandé aussi que ce soit des activités séparées à un moment.
Alors, en plus
qu'il y ait une traçabilité.
En plus de ça, MiFID 2, auquel vous faites allusion, est venu un peu clouer le dernier clou du cercueil du financement de la recherche en exigeant une séparation, une traçabilité totale, alors qu'on était dans un écosystème où finalement le financement de la recherche des plus grosses valeurs finançait la recherche sur les plus petites valeurs. Le régulateur a dit non, il ne faut pas. Les investisseurs ne doivent payer que pour ce qu'ils consomment et on ne faut pas les faire payer pour quelque chose qu'ils ne consomment pas. Alors c'était en théorie tout à fait audible. La conséquence est simplement que ça a encore un peu appauvri cette recherche. Et donc il y a 40% à Paris, hein, 40% des ce qu'on appelle les small caps, des moins de 150 millions d'euros de capitalisation qui sont suivis par personne. Et ensuite vous avez une trentaine de pourcents qui sont suivis seulement par un analyste et le solde qui a plus de deux analystes donc. Et qui donc ont une couverture à peu près correcte. La conséquence, elle est assez néfaste, puisque finalement, être coté en bourse, ça coûte assez cher. Hein, ça coûte plus de 500 000 euros par an, en moyenne, si vous accumulez tous les frais, les rapports spéciaux, le temps du management pour parler de la société, etc. Et avoir tous ces frais sans être suivi, c'est un petit peu comme avoir tous les inconvénients sans aucun bénéfice. Et les bénéfices, vous les connaissez comme moi, hein, c'est le fait d'être suivi, ça donne non seulement de la liquidité, puisque ça attire de l'intérêt sur la valeur, mais ça permet aussi de baisser le coût du capital. Alors, je crois qu'on a quelques étudiants qui peuvent nous écouter, la baisse du coût du capital, elle a comme conséquence de pouvoir financer des projets à moindre coût, et donc d'être moins dépendant de son autofinancement, de pouvoir faire appel au marché pour pouvoir financer des projets. Donc pour toutes les entreprises, petites et moyennes, qui sont cotées en bourse, qui ont les frais d'être cotées en bourse, et si elles ne sont pas suivies, ça devient un problème.
D'où la désaffection un petit peu qu'on observe. Enfin, on voit encore quelques introductions. Le flux s'était un petit peu tari avec les marchés qui étaient devenus difficiles en fin d'année, ou moins lisibles. Mais c'est vrai qu'on peut le regretter qu'il n'y ait pas une place un petit peu plus dynamique. Et surtout, c'est vrai qu'on parle de beaucoup des sociétés au moment de l'introduction en bourse. Hein, vous connaissez ça par cœur, la financière d'Uzès. Mais après, ça tombe un petit peu en désuétude. Elles sont moins suivies. On en parle beaucoup moins ou un entrefilé sur les grands journaux qui ont financiers.
Oui, tout à fait. Je pense que, mais François pourrait nous éclairer, je pense qu'il y a une problématique aussi peut-être de réglementation, parce que il y a des gens qui ont essayé des choses, mais des fois on est plus proche quasiment du marketing, de quasiment de la publicité en fait. Hein, voilà. Alors que là, on parle vraiment de recherche fondamentale en réalité. Alors, justement, il y a une charte, il y a une discussion en tout cas sur une charte française, voire peut-être européenne, on ne sait pas si c'est le gendarme européen ou l'AMF, bref, qui va gérer ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot un peu sur les objectifs de cette charte, un petit peu où est-ce que l'on est, et justement, quand on parle de cette recherche fondamentale, est-ce que, j'étais à la recherche, est-ce que vous donnez des indications d'achat, de vente, des prix, des objectifs, comment ça fonctionne ?
Alors, deux choses. La première, on reprend les questions. Dans l'ordre, hein, justement, la place de Paris qui peine à s'accorder sur une charte commune.
Oui, alors c'est malheureux parce qu'en fait, on pensait y être proche il y a au moins un an déjà. Et en réalité, on est face à des acteurs qui ont des intérêts différents. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui produisent la recherche, qui le faisaient déjà, de la recherche sponsorisée. Donc il y a des intérêts à ne pas forcément bouger les habitudes. Et de l'autre, d'autres acteurs qui viennent un peu avec une vision théorique de ce qui serait bien de faire. Et l'AMF a un peu du mal à mettre d'accord tout le monde pour aboutir à quelque chose. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut écrire naturellement en première page en disant que c'est une recherche sponsorisée, mais certains vont vouloir garder ce terme de recherche sponsorisée, d'autres vont vouloir dire recherche financée par l'émetteur. Alors c'est de la sémantique, mais forcément ça peut avoir un impact sur la perception du produit. Enfin, il y a plusieurs modèles qui coexistent. Il y a un modèle purement payé par l'émetteur et ensuite diffusé à tous gratuitement. C'est le modèle de TA Recherche d'ailleurs. Et puis un modèle qui était le modèle un peu historique, où les brokers sont payés par l'émetteur et en plus de ça, se font payer par les investisseurs qui reçoivent cette recherche. Du coup, c'est une diffusion plus restreinte, seulement aux clients des brokers. L'AMF dit d'ailleurs que les deux peuvent exister. La charte, l'un des problèmes de la charte, c'est qu'elle voudrait privilégier l'un des modèles au détriment de l'autre, sans l'interdire pour autant. Et forcément, ceux qui sont les tenants de l'un ne veulent pas céder sur ce point-là. Ça peut se comprendre. Nous, on est assez neutre dans cette querelle, en fait. Ce qu'on aimerait bien en tant qu'entrepreneur, c'est avoir un cadre clair des règles qui vont s'appliquer. Si l'Union européenne s'en mêle, et il semble d'ailleurs qu'elle y soit favorable, hein, le commissaire européen qui s'occupe de ça a donné un avis plutôt favorable sur ce sujet. Ce qu'il ne faut pas, c'est que les règles changent tout le temps et qu'elles viennent bouleverser un écosystème qui est encore assez fragile.
Deuxième question, c'était sur la notation proprement dite.
Voilà, la notation, comment est-ce qu'il y a des objectifs, des signaux d'achat, comment ça
se passe ? Voilà, parce que, après j'aurais une question connexe, c'est justement sur l'objectivité, pas évident, parce que comme vous le dites, hein, c'est votre client qui vous dit, bah tiens, donne-moi une note. Bon, on est quand même tenté de lui mettre la moyenne.
C'est une très bonne question et je pense que je vais y répondre à travers la première. Aujourd'hui, dans ce qui existe dans le marché, donc je parle du marché d'abord, la recherche sponsorisée, dans de nombreux acteurs d'ailleurs, présente un objectif de cours, une opinion boursière, et se mélange finalement avec la recherche traditionnelle. C'est pas le choix qu'on a fait nous. Nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir trois scénarios. Donc on propose trois scénarios aux investisseurs en leur disant, voilà, il y a un scénario central. Si les choses se déroulent d'une façon...
Suivant le business plan,
voilà,
ce qui est rare.
Là, on arrive. Si en revanche, par exemple, dans une industrie en build-up où il y a plein d'acquisitions à faire, si ça se bloque, s'ils n'arrivent pas à faire ces acquisitions, voilà au contraire ce que ça pourrait valoir. Et si, miracle, il y a une accélération de la croissance, voilà jusqu'où ça peut aller. L'idée, c'est d'accompagner le plus loin possible l'investisseur dans son choix, mais sans lui dire achetez ou vendez. Pour plein de raisons. D'abord, parce que ça ne les intéresse pas vraiment, les gérants. Les gérants, ils nous ont toujours dit, c'est pas ça que je demande à l'analyste. C'est mon job à moi, gérant, de décider. Toi, tu m'éclaires, tu me fais gagner du temps.
Ah d'accord, ça veut dire, attendez, juste pour comprendre par rapport à ce qu'on a un petit passé de financier, on n'a plus strong buy, conserver, vendre, acheter comme on avait...
Alors, en général, si vous le trouvez sur plein de recherches sponsorisées, vous
mais
trouvez
pas
ça,
chez vous.
Mais pas chez nous.
D'accord.
Donc on a ces trois scénarios avec l'idée que, de toute façon, quoi que je dise, on me dira, de toute façon, t'es payé par la boîte, donc ton opinion ne m'intéresse pas. Donc on va donner la modélisation sur trois scénarios et l'investisseur, le gérant, qui est le destinataire de cette recherche, même si elle est gratuite pour lui, va se décider et faire son job en fait.
Et est-ce que vous avez un objectif de cours en fonction des trois scénarios ? C'est-à-dire ça se passe bien plus en 50%, ça se passe moyen...
Ça peut aboutir à un objectif de cours, après ça dépend vraiment parce qu'on est sur du stock picking, ça dépend vraiment des sociétés et des configurations. Mais oui, ça peut aboutir à un objectif de cours, mais on ne dit pas acheter ou vendre. On pense que les gérants sont assez grands pour se dire ça. Donc cette indépendance qui est vraiment primordiale, comment est-ce qu'on la défend ? D'abord en étant un pur player, c'est-à-dire qu'on ne va rien chercher d'autre que ce contrat de recherche. On ne va pas faire de la communication financière, on ne va pas faire du conseil en haut de bilan. On ne fait que de la recherche. Et du coup, il y a un conflit d'intérêts qui est évident, hein, mais qui est clairement définie et il n'y en a pas d'autres. Et je pense qu'il ne faut pas s'illusionner sur l'absence de conflit d'intérêts, même sur la recherche spontanée. Hein, puisque si beaucoup de banques continuent à faire de la recherche, donc à perdre de l'argent dans cette activité depuis des années, c'est bien parce qu'elles attendent autre chose, des contrats sur le marché primaire, etc. Donc le marché est naturellement la confrontation de différents intérêts. En l'occurrence, l'avantage de la recherche sponsorisée, c'est que ce conflit d'intérêts, il est éclairé, il est annoncé, et chacun peut se faire son idée derrière sur l'objectivité et sur l'utilité de cette recherche pour lui. Il n'y a pas de faux-semblants, tout est annoncé.
D'accord. Et vous suivez combien de valeurs, du coup, aujourd'hui ?
Alors, pour l'instant, on vient de commencer.
Ça vient de démarrer, donc, d'accord.
Voilà, on en est à deux. Ouais. Et on espère, en fait, on est en train de discuter avec pas mal de secteurs. C'est l'un des intérêts de faire du stock picking. C'est-à-dire qu'on peut autant faire de l'équipementier électronique qu'une holding, que du champagne, que de la consommation, que des softwares.
Alors, je regarde sur votre profil. Vous étiez spécialiste pendant 5 ans chez Natixis, du food, beverage and tobacco. Bon, c'était pas très ISR, ça, hein, je crois que le tabac.
Le tabac, mais... pas trop, non.
Mais non, la question derrière, c'est est-ce que justement c'est connect, vous touchez à tout, c'est-à-dire n'importe quel secteur vous pouvez analyser aujourd'hui, où il y a quand même un focus qui est mis sur
alors,
un secteur.
On est stock picker, c'est-à-dire, je dis on parce que je travaille avec Carole Rosen, qui est une grande professionnelle des valeurs moyennes et qui m'a rejoint pour développer TIA Recherche. On est stock picker exactement comme sont les investisseurs, les gérants small et mid cap qui ne sont pas sectorisés, qui sont stock pickers. Voilà. Après, on s'interdit d'aller sur des secteurs où on pense avoir une compréhension trop faible. Je pense en particulier aux biotech. Il y a beaucoup de demandes sur les biotech, mais il faut être capable de vraiment d'analyser en profondeur et d'avoir un regard critique. Et je ne me sens pas capable, par exemple, d'avoir un regard critique sur les biotech. Bon.
Alfonso.
Alors, est-ce que dans vos spécificités par rapport à vos autres concurrents, qu'il faut de l'analyse, qu'est-ce qu'on vous atout ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être capable de... Vous diffusez votre analyse, de ramener de la data, en fait, de l'information, un sentiment au client. Bref, qu'est-ce que vous apportez de plus au marché ?
Je pense que ce qu'on apporte, c'est d'abord d'être un pure player et d'être les seuls à faire ça. Ensuite, d'avoir, grâce à notre historique, des relations personnelles avec de très nombreux gérants, small et mid cap, en Europe, un petit peu aux États-Unis, mais surtout en Europe et en France, et d'être capable de faire le lien, en fait, entre les investisseurs et les sociétés qui nous confient ce mandat de recherche, et de leur dire, voilà, on a publié telle recherche, on en a parlé avec, on l'a diffusé à 200 personnes qui sont des spécialistes, on a pu en parler avec un certain nombre d'entre eux, et voilà ce qu'ils nous disent, eux, de la perception qu'ils ont de la recherche qu'on a écrite sur vous. Et ce feedback-là, je pense que c'est quelque chose que les brokers qui ont plein d'autres choses à faire n'ont pas forcément le temps de faire. Et donc c'est vraiment l'une des particularités qui nous caractérise, avec le fait d'être ESG natif, c'est-à-dire que on a créé TIA Recherche il y a seulement un an, et dès le début, on associe extra-financier et financier de manière à correspondre aux besoins de nos lecteurs qui sont les gérants. Encore une fois, même si c'est gratuit pour les gérants, on écrit dans leur intérêt et dans avec l'idée de les aider dans leur acte d'investissement.
Et moi, j'ai une petite question pour les jeunes, plus jeunes qui nous suivent. Quel conseil donnerez-vous à un jeune qui veut être analyste financier aujourd'hui ?
De ne pas s'interdire ce métier, même si on dit que c'est un secteur en crise, etc. C'est un métier qui est vraiment passionnant. Je leur conseillerais d'abord de faire des stages, puisque c'est comme ça qu'on s'approprie ce métier, qui est vraiment très généraliste, où on fait un peu de tout. Il faut savoir écrire, il faut savoir partager une conviction, il faut aussi analyser, faire des modèles. Donc c'est vraiment extrêmement complet. Et même si on n'y fait pas toute sa carrière, je pense que c'est très utile pour une belle carrière derrière dans la finance.
Oui, c'est déjà pas mal. Hein. Tiens, est-ce que d'autres diplômes sont obligatoires ? Je pense à la SFAF, Société Française des Analystes Financiers, et puis il y a son homonyme anglo-saxon, le CFA, qui est presque encore plus dur. Vous avez fait quoi, là ?
Moi, j'ai fait le français, je suis membre de la SFAF, j'ai été même administrateur de la SFAF, et je suis toujours à la commission déontologie de la SFAF, donc je ne saurais trop recommander le certificat proposé par la SFAF et qui propose également depuis maintenant quelques années le CESGA, qui est une certification d'analyse ESG que j'ai pu faire d'ailleurs en 2020. Donc c'est un métier où il faut continuer à se former, hein, parce que les notions d'ESG sont en pleine évolution, et autant j'en avais toujours un peu fait sans le savoir, autant j'avais besoin, moi, je sentais avoir le besoin de me structurer, de structurer ma pensée et d'avoir un cadre d'analyse. Et la SFAF propose le CESGA qui est très, très utile pour ça.
Très bien. On termine justement sur ce prisme que vous avez choisi avec TEIA, le fait de prendre le virage justement de tout ce mouvement ESG-ISR. On sait que les Français sont très attachés pour leur épargne maintenant à ce que ça produise du sens. C'est une conviction pour vous que voilà, demain, les entreprises vont massivement se tourner vers ce prisme et en tout cas passer les fourches caudines de l'analyse.
On peut pas en faire l'économie, c'est en plus complètement complémentaire avec une analyse financière. C'est-à-dire qu'on peut pas comprendre une entreprise si on s'intéresse pas à sa gouvernance, si on regarde pas où elle se situe par rapport aux méga-trends, notamment évidemment la transition énergétique. Et finalement, souvent on en faisait un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose,
et oui.
Mais là on lui donne un cadre et on essaye d'aboutir à des conclusions et de voir comment ça situe l'entreprise dans la durée. Et je pense que ça ajoute beaucoup à ce qu'on faisait avant.
Voilà, en tout cas, belle découverte une fois de plus hein, dans Financier Live. Oui, les analystes financiers ne sont pas morts. Voilà, ça c'est. Et au contraire, ils vont aider de plus en plus, non seulement les grosses capitalisations, mais les plus petites à émerger, bien sûr, et à faire parler d'elles en toute, bien sûr, objectivité. On l'a compris. Un grand merci, François Digard. Je rappelle que vous êtes le fondateur de TEIA Recherche. C'était un grand plaisir de vous avoir. Merci, Alfonso.
Merci.
On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Financier Live.
Financia Live, une émission proposée par Financia Business School, à retrouver sur le site et l'appli Radio Patrimoine et toutes les plateformes de streaming.